vous avez un avantage par rapport à moi, c'est que vous voyez l'horloge de la ville et moi je ne la vois pas. Donc écoutez, hein, c'est comme ça qu'ils ont disposé la salle et c'est très bien pour moi, comme ça je peux y aller, j'ai une bonne excuse. En fait, j'ai sorti ma montre, je la mets là devant moi, mais parfois j'oublie de regarder. Hein. Donc faites-moi signe. Une fois, il y avait quelqu'un qui a invité un contact, il l'a invité à l'église. Quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans une église, un culte, c'était complètement nouveau. Et en arrivant à l'église, il lui dit, écoute, tu vois, regarde, tu observes, et puis s'il y a une question sur quoi que ce soit, pourquoi ils font ça, pourquoi ceci, cela, tu me le demandes. Hein. Et donc, le culte s'est bien déroulé. À la fin, alors, il regarde son ami, puis il dit, alors, tu as des questions, tu as quelque chose? Il a dit, non, j'ai qu'une seule question. Il dit, c'est quoi? Il dit, ben, j'ai vu le prédicateur, là, enlever sa montre et la placer devant lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, ça veut rien dire. Mais en fait, pour vous qui prennent des notes, ça, c'était la première leçon hein, de cet après-midi. Parce que quand vous venez avec un invité, hein, il ne faut pas seulement le larguer comme ça dans une salle et puis espérer pour le mieux. Hein. Non, on accompagne. En fait, c'est à la porte déjà, si ce n'est pas nous qui l'avons invité, s'il vient comme ça en touriste, c'est de l'accueillir déjà à la porte, de l'accompagner, de l'asseoir près de quelqu'un qui pourra l'aider à se retrouver dans la Bible, tout ça. On accompagne tout le long, jusqu'à la croix. Et après de la croix, le Saint-Esprit sait bien faire. Mais bon, sinon, on accompagne. Parce que moi, ça m'est arrivé, bon, en tant que prédicateur, souvent on arrive, on est déjà connu, les gens nous attendent, donc on est bien reçu. Mais une fois, j'ai été dans une église où personne ne me connaissait, où je ne connaissais personne. Et bien, c'est là où j'ai dit, bien fait pour toi, Steve. Parce qu'il n'y a personne qui a dit bonjour, personne, je suis rentré, je suis parti. Ça, rien du tout. J'ai dit, heureusement que je suis chrétien, parce que si je n'étais pas chrétien, je ne serais pas revenu. Hein. Et oui, mais il faut penser à eux, il faut se mettre à leur place. Et je me dis, combien de fois est-ce que nous avons commis cette faute? Hein, moi, j'ai mes petits amis, mon petit réseau, je disais aux gens de Saint-Denis, je disais, écoutez, vous laissez tomber vos amis, vous voyez d'abord les nouveaux, les visiteurs, vous leur parlez, parce que eux, c'est les premiers à partir. Hein. Si personne ne leur dit bonjour, ils ont vite parti. J'ai dit, vous vous concentrez sur eux d'abord, vos amis seront encore là. Et puis après, vous passez aux amis. Sinon, ce n'est pas la peine, ce n'est pas sérieux. Hein. Ne dites pas qu'on veut voir grandir l'Église et accroître. Hein. C'est du langage, c'est des paroles seulement. Donc cet après-midi, de temps en temps, il y a des trucs comme ça qui ne sont pas dans mes notes qui vont sortir. Hein. Après, c'est gratuit, hein. C'est du bonus pour vous. Et voilà. Sinon, cet après-midi, on veut ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, c'est extraordinaire qu'il y ait tout un chapitre, et un long chapitre, consacré à la guérison d'un aveugle. Il est aveugle-né, oui, je veux bien, mais tout un chapitre. Alors que ailleurs, il y a un aveugle qui est guéri, il y a un autre, et puis deux, trois versets au maximum. Mais là, tout un chapitre, et je me dis, mais pourquoi le Saint-Esprit a voulu? Et finalement, l'apôtre Jean, c'est le seul apôtre qui a relevé ce miracle-là. Oh, il a bien dit à la fin de son évangile, il a dit, oui, j'aurais pu dire beaucoup de choses hein, par rapport à tout ce que le Seigneur a fait. Et dans la multitude de signes et de prodiges et de miracles et tout ça que le Seigneur a accompli, eh bien, quelque part, le Saint-Esprit a dit, Jean, je veux que tu prennes celui-là. Parce que celui-là, eh bien, il dit quelque chose. Au premier abord, il y a le côté histoire. L'histoire est celle qu'on raconte dans la classe d'enfants. Et j'espère, quand vous racontez l'histoire dans la classe d'enfants, vous la racontez de manière à ce que l'enfant voit que Jésus est le Fils de Dieu. Sinon, vous avez perdu votre temps. Hein. Il y a autant raconter quelque chose de Donald Duck ou quelque chose comme ça. Je trahis mon âge, là. Bon, mais c'est déjà auprès des enfants, on raconte la partie histoire, mais il faut leur raconter. Alors si vous avez un club d'enfants, alors encore raison de plus, parce que souvent c'est des enfants de l'extérieur. À Saint-Denis, nous avions pendant 11 ans, on avait les quartiers, on avait des enfants du quartier, ils étaient sur 30 enfants, il y avait une dizaine de nationalités. Mais comment est-ce qu'on leur raconte? On peut leur raconter l'histoire de manière à les distraire, vous savez, les enfants, ils aiment bien les histoires, et surtout quand ça termine bien. Mais le but, c'était de leur annoncer Jésus-Christ. Encore une petite histoire. S'ils n'en voulaient plus, vous levez la main, si vous voulez plus des petites histoires, après, comme ça, je passerai à autre chose, mais on avait des petites filles musulmanes. Il y avait plusieurs musulmans dans la classe. Par la suite, elle est venue au Seigneur, et j'ai eu le privilège de la baptiser, et après, par la suite, toute sa famille est venue au Seigneur, et ils sont actifs dans l'Église, et même un grand frère est missionnaire maintenant. Mais pendant longtemps, elle écoutait les histoires, elle dit « Ah, c'est dommage, je suis née musulmane, c'est pas pour moi, c'est pour les chrétiens. » Et à un moment, pendant l'histoire, mon épouse a dit « Vous savez, si on est portugais, elle essaie de penser à tout le monde, si on est portugais, si on est français, si on est algérien, si on est marocain, si on est espagnol, si on est africain, n'importe qui peut demander à Jésus. » Elle a dit « Ce soir-là, j'ai demandé à Jésus d'entrer dans mon cœur, parce que je croyais que ce n'était pas pour moi. » Mais quand elle a dit ça, j'ai su que c'était pour moi. Vous vous rendez compte? Il fallait ça pour faire la différence. Et rater ça, ce serait dommage, surtout si on l'a pris après. Vous savez, c'est très important. Et c'est de vraiment croire, sérieusement. On a chanté des belles choses. On a entendu des belles choses, mais est-ce qu'on le croit réellement? J'ai à vous regarder, je dis qu'il n'y a pas beaucoup d'étrangers en Suisse. Aïe, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, revenez à Jean chapitre 9. Sinon, je vais m'attirer des ennuis. Remarquez que dans ce chapitre, le verset 1 commence par... Comme il passait, pourtant il y avait 12 disciples avec lui, comme il passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance. Vous savez, on marche avec Jésus, tous nous marchons avec Jésus. Mais est-ce qu'on voit ce qu'il voit? Est-ce qu'on voit quelqu'un qui a besoin? Ou est-ce que comme les disciples, ils ont eu... Et puis quand ils l'ont vu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Jésus, question théologique d'institut biblique, c'est lui ou ses parents qui ont péché? C'est ça la seule pensée que tu as eue quand tu es quelqu'un dans le besoin? Tu n'as pensé qu'à ça? Tu ne t'occupes même pas de la personne? Tu te sers de lui pour une discussion qui mène à rien du tout? Et vous remarquez que dans la réponse, Jésus, il n'a pas discuté longtemps, hein. Cette question-là, c'est une perte de temps pour lui. Le passage commence par « Jésus vit un aveugle de naissance ». Et le chapitre termine par « Jésus dit, « Moi, je suis venu dans ce monde pour le jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, que ceux qui ne voient ceux qui voient deviennent aveugles. » J'ai comme l'impression que Jésus est en train, là, dans tout ce chapitre, c'est toujours une question de cécité et de lumière, d'aveugle et de voyant. Au milieu du chapitre, verset 5, Jésus dit « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Il y a un message dans ce chapitre. Ce n'est pas la guérison. La guérison, ce n'est pas le plus important. Il y a plein de gens qui ont vu des guérisons qui n'ont jamais été sauvés. Les guérisons, ils attirent l'attention, mais ils ne sauvent pas. Et il y a bien plein de gens qui ont été guéris et qui sont partis. Hein. Pensez aux 10 lépreux, par exemple. Hein. Il n'y en a qu'un, 10% seulement, qui ont cru. L'apôtre Jean relève ce miracle Et là, je veux voir surtout les réactions des différentes personnes, parce que là, il prend le temps de nous parler de ce que les disciples ont dit, il prend le temps de nous dire ce que les voisins ont dit, ce que les pharisiens ont dit, tout ce que disait chacun. Et puis après, il y a ce que Jésus a dit à l'homme. Et je me demande parfois si là, on ne voit pas ressortir un peu, oh, je ne dirais pas vous, hein, vous n'avez pas de problème, mais si jamais vous rencontrez des chrétiens ou une église qui a des problèmes, vous saurez comment leur parler, n'est-ce pas? Et première chose, j'en ai déjà soulevé la chose, c'est ces disciples qui disent, mais Jésus, c'est qui a péché? Si on répond, c'est les parents, on dit, mais c'est pas juste, si les parents ont péché, puis c'est l'enfant qui paye, c'est pas juste. Et si on dit que c'est l'homme qui a péché, ben on dit, mais quand est-ce qu'il a péché? Il est né aveugle. Et donc c'était la discussion. Mais le truc, c'est que le tout était faux. Hein, on a le problème des idées reçues. L'idée reçue, c'était que s'il y avait malheur, s'il y avait péché, s'il y avait maladie, s'il y avait mort, c'était à cause du péché. Alors que c'est faux. Mais basé là-dessus, c'était le problème de Job. Hein. Ses trois amis sont venus le voir, c'est parce que, ben, écoute, il t'arrive ces malheurs-là, c'est certainement que tu as péché. Mais non, j'ai rien fait. Je leur dis, écoute, raconte, on est tes amis, hein, vas-y, raconte, qu'est-ce que tu as fait? Mais non, je vous dis que je n'ai pas péché. Mais si, parce que si tu as un malheur pareil, c'est pas... Et c'est parti pendant longtemps. Ou bien c'était un peu, même les pharisiens ici dans ce chapitre, ils vont dire à cet homme, ils vont dire, mais tu es né dans le péché. Et tous sont nés dans le péché. Il dit, mais toi, parce que tu étais aveugle depuis le début. Et ça va être le même problème, vous rappelez, avec l'apôtre Paul, hein, quand il sera en voyage, là, puis il jettera de la broussaille sur le feu, puis il y a une vipère qui l'attrapera, puis il dit, ah, la justice, il va mourir. Il a voulu échapper, il a échappé à la mer, mais bon, la justice, elle est là. C'est des pensées qui sont là, elles sont encore présentes de nos jours. Et combien de fois, dans mes discussions avec des personnes, elles sont encore là. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça? Vous l'avez entendu déjà? L'idée, elle est là. Mais c'est faux. Mais cette idée, elle est là. Et combien de gens réagissent contre Dieu, le trouvent injuste? Combien de chrétiens n'ont rien à dire? Le problème. Et Jésus dit, ni celui-là a péché, au verset 3, ni ses parents. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, l'aveugle-né. Est-ce que nous voyons une personne comme ça, à qui on a parlé pour la première fois, qui montre un peu d'intérêt? Bon, il a des gros problèmes. Il a des soucis. Je me souviens une fois, il y avait une personne que j'ai vue entrer du fond de la salle. J'ai vu son visage et dit, oh là Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? C'était ma première réaction. Je suis un humain, hein, si vous ne savez pas, demandez à ma femme. Mais vous savez, il a reçu le Seigneur. Et ça a transformé le jour après. Il m'a appelé, il m'a dit, tu sais Steve, les arbres, c'est plus vert, les fleurs, c'est plus vif, les couleurs des fleurs, c'est plus vif. Je vois tout autrement. C'est afin que la gloire de Dieu se manifeste en lui. Et vous dites, ah, cette personne, c'est une opportunité pour Dieu. Ou est-ce que je dis, si ça l'intéresse, qu'il vienne, hein. Ou bien, je vais le dire, est-ce qu'il y a une catégorie de personnes que vous n'aimeriez pas avoir dans l'Église? Ou on aime bien avoir des gens du travail tout fini? Ou bien on veut du brut? Hein. On va aller travailler sur la carrière. La carrière, elle n'est jamais dans la maison. Hein. La carrière, elle est là-bas au loin. On va tailler les pierres là-bas et puis on les amène. C'est comme ça que Salomon a construit le temple de Jérusalem, n'est-ce pas? Et on n'entendait pas le marteau au temple. Bon, je vous laisse avec cette pensée-là. Et vous savez, on a nos petites traditions, on a nos petites habitudes. Écoutez, je vais vous confesser. Moi, bon, vous savez, je suis un baptiste, ça ne veut rien dire. Mais je suis né dans un milieu où on avait des idées figées sur certaines choses. Moi aussi, j'ai grandi là-dedans. Pas le même que vous, peut-être, mais vous savez, les chrétiens, ils sont pareils partout. Hein. Seulement, ils ne sont pas figés dans les mêmes idées, peut-être. Mais, et puis après, je me retrouve tout d'un coup sur, en France, avec une Bible, je l'ai toujours. Mais, oh, et comment on va parler aux gens maintenant? Et toutes mes petites idées, et tous ces trucs, toutes mes habitudes, et toutes les belles choses qu'on avait, et qu'est-ce que j'en fais maintenant? C'est même pas intéressant pour les gens à qui j'ai affaire. Et puis, qu'est-ce que... Il y avait un verset qui me travaillait tout le temps, c'était... C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi que vous ai choisi, afin que vous portiez du fruit... et que votre fruit demeure. Ce n'est pas juste une question de qu'il soit sauvé. Et puis, voilà, Seigneur, vas-y, mets une petite étoile là-haut, à côté de mon nom. Hein. Il dit du fruit et que le fruit demeure. Pour qu'il demeure, la pensée de Dieu, c'était l'église locale. Et une église locale où le fruit va demeurer et va se propager, se multiplier. L'église, ce n'est pas une réserve. C'est une pépinière. Il faut s'assurer, hein, il faut penser correctement, hein, sinon on ne va pas travailler de la même manière. Et Jésus pouvait, dans son sermon sur la montagne, il a prévu... le moment où il y aurait des gens qui se présenteraient à lui et qui diront « Seigneur, Seigneur hein, !» Il dit « Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront ce temps-là « Mais Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom ?» Et alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Comment? Ces gens-là? Ces gens qui disent « Seigneur, Seigneur » et disent « Vous pratiquez ?» Ils disent « Ouais, ouais, moi je ne vous connais même pas. » Imaginez d'arriver à la fin de votre vie, d'arriver là-haut, et puis il dit, refoulé. Il dit, mais Seigneur, on était, tu connais l'église de Balègue? Ben, on était dans l'église de Balègue. Il dit, mais moi je ne connais pas. Ah bon? Vous savez, il y a un problème. Avant d'aller chercher les gens de là-bas, est-ce que tout le monde est sauvé chez nous? Notre premier champ missionnaire, ce sont nos enfants. Ils naissent inconvertis, ils naissent pécheurs. Nos petits-enfants aussi naissent pécheurs. Et qu'est-ce qu'on fait pour eux? Moi, je remercie le Seigneur. Mon père a connu le Seigneur à un âge, a été déjà adulte. Il avait plus de 30 ans quand il a reçu le Seigneur. Moi, j'ai pu entendre l'Évangile depuis ma jeunesse. Et c'est vrai que quand on grandit là-dedans, on comprend beaucoup plus tôt l'Évangile. Ça, c'est sûr, c'est une grâce. On peut le comprendre beaucoup plus tôt. Et il faut que notre préoccupation soit mon premier champ missionnaire, mes premiers inconvertis à qui je parle, le culte de famille du soir, c'est pour qui? C'est pour pouvoir dire à l'Église que, bon, on fait un culte du soir, parce qu'on est une bonne famille chrétienne. Où c'est vraiment dans le but d'atteindre nos enfants. On veut savoir comment aller plus loin. Commence avec tes enfants. C'est les plus durs, parfois. Surtout quand ils deviennent adolescents. Alors là, ils savent tout, alors c'est difficile de leur parler. Moi, j'étais là aussi. Je ne suis pas en train de les critiquer. J'étais là et je me souviens d'un jour où le Seigneur m'a donné une bonne leçon. Et puis, je me suis rendu compte que ma mère, elle en savait un peu plus. Mais bon, c'était un choc, ça fait mal quand même. Voilà. Mais est-ce que déjà, dans mon Église, est-ce que nous voulons que les enfants, la génération suivante, se sentent accueillis? Ils sentent que c'est pour eux aussi, qu'ils ont leur place. Je vous parlais de Saint-Denis, je vais souvent parler de Saint-Denis, mais parce que, bon, c'est mon expérience, mais pour moi, et pour mon épouse, elle m'a beaucoup aidé dans ce domaine-là, c'est donner de l'importance aux enfants. Je connaissais les noms de tous les enfants, je les salue en rentrant. C'est pas seulement on a salué les adultes et puis on laisse passer les enfants. On salue tous les enfants, on s'assure, ils se savaient aimés par le pasteur. Et s'ils avaient besoin de quelque chose, ils pouvaient à n'importe quel moment venir tirer son pantalon et j'interromprais ma conversation avec l'adulte pour lui parler. C'est important. Il fallait qu'ils sachent qu'ils sont chez eux et qu'ils ne sont pas pénibles, qu'ils ne sont pas une charge et surtout qu'ils ne dérangent pas. En fait, dans le budget de l'Église, il y a une grande partie du budget, ça allait vers les enfants. Il y a un principe que mon épouse et moi, on a toujours pratiqué. C'est que dans l'Église, si tu te concentres sur les plus faibles, tu n'oublieras pas les autres. Mais si tu te concentres sur les talentueux, sur la crème, eh bien, tu vas oublier plein de monde, une partie de l'Église. Et ceux qui se sentent oubliés disparaissent. Ça, c'est mon expérience. Les faibles dans l'Église, eh bien, les faibles, c'est les enfants, c'est les veuves, c'est les orphelins, c'est l'étranger, c'est celui qui passe par un moment difficile, l'handicapé. Parlant d'handicapé, on a une expérience. On était dans notre bâtiment et c'était trop petit. Et il y avait une sœur handicapée qui ne pouvait pas rester pour les repas fraternels parce qu'elle était handicapée. Puis on n'avait pas, c'est un bâtiment ancien, il n'y avait pas de confort pour les personnes handicapées, donc elle devait rentrer. Et on s'est dit, c'est pas normal. On va faire les frais, mais il faut qu'elle puisse se sentir comme faisant partie de l'Église. Elle a sa place. Et il y avait un architecte dans l'Église à ce moment-là, qui était un anarchiste avant, qui a trouvé le Seigneur, parce qu'ils peuvent être sauvés aussi. Hein. J'espère que vous le croyez. Et j'ai dit, Jean-Jacques, écoute, la sœur Dina, elle ne peut pas rester pour les repas fraternels parce qu'elle est handicapée, parce qu'on n'a pas les toilettes qui conviennent. Réfléchis un peu, voir ce que tu peux faire. Et il a réfléchi. Pour, je ne vais pas juste raccourcir et vous donner la fin de l'histoire seulement, c'est que la mairie nous a donné autorisation de passer d'un cost de 40% à 60%. Ils nous ont aidés. Pourquoi ? Parce qu'on voulait aider une dame handicapée. Et on a pu agrandir le tout. Parce qu'on s'est intéressé à faible. Et vous savez, c'est très important. Il faut que ça soit dans nos gènes chrétiennes. Parce que quand vous devenez chrétien, vous avez de nouvelles gènes. Et donc, la question que j'ai déjà posée, y a-t-il des gens qui sont exclus dans votre champ de vision? Est-ce qu'il y a des gens qui sont exclus? Des gens, je me rappelle, je suis américain d'origine, donc je peux dire ça. De temps en temps, on partait dans les églises qui nous soutiennent financièrement, et donc on présentait l'œuvre, et donc on montrait les diapos de l'église de Saint-Denis, et puis vous voyez le mélange, on part du blanc jusqu'au noir foncé, qu'à charbon, comme ils disent là-bas, ils disent noir pétrole. vous n'osez pas le dire, mais voilà. Et il y avait toute la palette. Et c'était dans l'église. Et puis après, avec les couleurs, après vous avez les couleurs indiennes, et puis vous avez les couleurs africaines, et puis vous avez les couleurs berbères, et puis vous avez toutes les couleurs, hein, c'était joli tout ça. Et puis et j'entendais, parce que j'étais avec mon projecteur, là, puis j'entendais les réactions, et puis j'entends les gens, ils disent, waouh, ça c'est comme le paradis. Et après la réunion, le pasteur il vient me voir, il me dit, mais tu sais, on ne pourrait jamais le faire ici. Parce que les gens, ils n'accepteraient pas. C'est triste, hein? Parce qu'on a des gens que... Ah non, on ne peut pas avoir des gens comme ça. Mais ce n'est pas une question de quel état ils sont et comment ils sont quand ils arrivent. C'est ce que le Seigneur pourra faire pour eux qui importe. Vous savez, si Barnabas n'avait pas vu du potentiel chez Saul de Tarse, où serions-nous aujourd'hui? On a vu un peu leur passe. On a vu les disciples. Et puis ensuite, on voit les pharisiens. Les pharisiens, ça se représente, c'était la religion la plus pure. Hein, c'était eux, les gardiens de la foi, jusqu'au détail. Et là, on leur parle de cette guérison. Pour eux, le problème, ce n'était pas que l'homme soit guéri et qu'il voit maintenant. Ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'était qui l'avait fait. Et c'est un peu la même situation que dans les Actes des Apôtres, hein, quand le mendiant qui était à la porte, la belle, tout d'un coup, il est en train de sauter, glorifier Dieu. Puis il n'était pas charismatique. Hein. Mais il sautait, il glorifiait Dieu. Eh bien, le problème, c'était, ah oui, mais vous ne pouvez pas faire, vous pouvez guérir, ça va, mais ne faites pas au nom de Jésus, ne dites plus Jésus. Ah oui, on n'a plus rien, hein, on n'a plus rien à dire. Hein. Mais, vous savez, on voulait empêcher Jésus de guérir un aveugle, et puis on dit, en plus, il l'a fait le jour de sabbat. Vous savez, Jésus avait dit, il avait dit, vous vous dites, mais moi je dis, je me demande combien il y a de choses dans nos communautés où c'est Jésus, s'il était là, il dirait, vous vous dites, mais moi je vous dis. Pour eux, ils étaient sûrs d'être dans la vérité. Moi, j'ai dû revoir pas mal de choses dans mes idées reçues aussi. Hein. J'ai grandi, quand on grandit, on ne peut pas faire autrement que de recevoir ce qu'on nous a donné. Mais après... Après, il faut réfléchir, c'est ça qu'on demande aux gens du monde. Hein. C'est de voir et de dire et que ça devienne une conviction. Mais il dit, c'était l'un des signes du Messie. Hein, Ésaïe, plusieurs fois, il dit, il rendra la vue aux aveugles. C'était le signe, pourquoi on voulait l'empêcher? Vous savez, il y a quelqu'un derrière tout ça. Et Jésus, en fait... Le plus de guérisons qui sont mentionnées, il y a plus d'aveugles guéris qu'il y a de n'importe quelle autre maladie dans l'Évangile. Parce que c'était le signe principal. Le Messie, il guérira les aveugles. Et les pharisiens, ils ont dit, « Oh, mais nous, on est de Moïse. » Ben, Moïse avait prédit, il a dit, « Il viendra après moi, un prophète. Vous l'écouterez. » Hein, dans Deutéronome 18, en parlant de Jésus-Christ. Donc s'ils sont de Moïse, ils devraient écouter Jésus. Mais vous savez, nous, de notre jour, des fois, on a des gens qui se réclament de Saint-Pierre, et puis d'autres qui se réclament de Jean Calvin, et puis d'autres aussi. Pour ce qu'il faut se dire, c'est que ces gens-là, quand ils prêchaient Jésus-Christ. Alors allons à Jésus-Christ. Mais des fois, on est tellement pris dans des mouvements qui avaient des bonnes intentions, des bons commencements, et puis on perpétue des traditions et sans transmettre l'amour de Christ qui était à l'origine. C'est tous nos mouvements, hein, tous nos mouvements évangéliques, tout ça, ils étaient commencés par des gens très bien intentionné, et qui avait un grand amour pour Dieu. Mais ça, il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir, leur zèle. Ces pharisiens étaient là, et puis ils étaient prêts à tout annuler. Et surtout, ils ne pouvaient pas aider cet homme. Ils ne pouvaient rien faire pour lui. Finalement, vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont chassé. Est-ce que c'est l'accueil qu'on aurait chez nous ? Mais celui-là, il n'est pas conforme. Il est un peu... Je me rappelle avoir lu l'histoire d'un gars qui était tatoué de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Il était tatoué, puis il s'est présenté à l'église une fois. Oh ! Je ne savais pas quoi faire avec lui, ni quoi lui dire. Il a dit, j'ai reçu le Seigneur, j'aime le Seigneur. Et bon, après, j'ai vu la photo, il est en costume et tout, cravate, et tout bien. Mais bon, les tatouages, ils sont quand même, c'était partout. Et c'est, bon, maintenant, ça, c'est beaucoup plus courant, mais c'était il y a quelques années où c'était moins rayé. Et alors, tu as un problème ? Vous savez, on a nos idées de celui, il ne correspond pas, l'autre, il correspond. Alors celui-là, non, mais là, la dame, elle a eu l'enfant sans être mariée, donc on ne veut pas mélanger son enfant avec notre enfant. Et on a toutes sortes de petits trucs là pour éliminer du monde. Et depuis quand est-ce que Jésus a éliminé du monde ? Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si déjà, moi dans ma tête, je commence à éliminer du monde, j'ai écrémé. Parce que nous, on veut une église un peu quand même présentable, on veut... Vous savez, à l'église de Saint-Denis, une fois... je vais raconter ça tout à l'heure. Mais vous savez, il y avait... J'en parlais avec quelqu'un. Il dit, quand on avait du monde qui venait, alors quand il y avait quelqu'un de nouveau qui commençait à venir régulièrement, tout ça, je me sentais un peu à l'aise avec cette personne, j'ai arrêté, j'ai dit, écoute... Bon, la première fois que tu es venu, bon, c'est quelqu'un t'a invité, ou il t'a promis de quelque chose qui viendrait à ton anniversaire si tu venais, ou tu es venu en touriste, tu es venu, peu importe pourquoi tu es venu. Mais pourquoi tu es revenu la deuxième fois ? J'ai dit, dis-moi pourquoi tu es revenu. Et vous savez ce qu'ils m'ont répondu ? Ils m'ont dit, parce qu'on a vu les gens dans l'église qui s'aimait, on voyait, il y avait quelque chose là qu'on n'avait pas vu ailleurs. Il n'y en a pas un qui m'a dit, mais c'est tes prédications qui sont si belles. Ils m'ont dit, c'est, on a vu les chrétiens, on les a observés. Et on s'est dit, il y a quelque chose qui se passe ici. Et on est revenu, on voulait voir, comprendre plus. Et c'est ça que j'ai dit aux gens de l'église, je leur ai dit, écoutez, s'il y en a qui m'écoutent, c'est parce qu'ils vous ont vu, vous. C'est vous le secret. C'est vous qui préparez le terrain. C'est vous qui préparez leur cœur. Et vous savez, on veut atteindre le monde. Oui, mais est-ce que s'il vient, quelle va être sa réaction ? Après, il y avait un autre problème aussi dans cette situation. Parce que il y avait la crainte du « qu'en dira-t-on ? » Et ça, c'est une forte pression. Ce que les pères vont penser quand on est enfant, c'est grave. Ils rentrent à la maison, « Maman, il n'y a personne qui veut me parler !» Et puis en plus, quand ça arrive, qu'ils avaient votre enfant qui rentre, il dit « Bon, ils ont dit, toi, tu crois en Dieu, c'est des bêtises, toi. Et pour un enfant, c'est dur. La persécution, ça fait mal. Quand on est adolescent, on veut être inclus, pas exclu. Donc on essaye d'essayer de passer, hein, comment des jeunes chrétiens qui passent en camouflage à la vie d'église, tout ça, à la vie de lycée, tout ça, parce qu'on ne veut pas qu'on sache trop où on va le dimanche. Qu'est-ce que tu fais le dimanche ? Oh, ben, j'étais avec des amis. Dis-leur que tu étais à l'église. Et samedi soir, qu'est-ce que tu as fait ? Oh, ben, on était avec les jeunes. Ah, les jeunes qu'on connaît, on a passé des moments super. Dis-leur que c'était des gens chrétiens. J'ai eu des gens qui travaillent et disent « Alors, qu'est-ce que tu étais hier ?»« Ben, j'étais à l'église. » »« À l'église ? Ben, tu vas à l'église tout le temps, toi. Qu'est-ce que tu fais ? Tu t'ennuies là-bas. »« Ah non, c'est super !» Comment c'est super ? Moi, j'ai jamais entendu une église où c'est super. Mais c'est ça qu'il faut cultiver. C'est ça qui est un témoignage. Disant, ben, c'est bizarre celui-là. Il aime bien l'église. Et pourtant, il me paraît un peu normal. Mais on est là pour les choquer, pour les obliger à poser des questions. Qui est-ce qui doit avoir honte ? Moi, d'appartenir à Dieu ou eux de rejeter Dieu ? Ce n'est pas parce qu'ils sont majoritaires qu'ils ont raison. Hein. Et ça, on doit l'inculquer à nos enfants, à nos jeunes, nous-mêmes. Si on ne l'a pas, ben on ne pourra pas l'inculquer. Mais c'est la crainte du « quand dira-t-on ? » Cet aveugle-né, le pauvre, il n'a jamais vu de sa vie. Tout d'un coup, il voit, c'est avec mon imagination, j'essaie d'imaginer cet homme qui n'a jamais vu, puis tout d'un coup, il voit. Mais il n'y a rien dans le cerveau, normalement. Il n'y a pas d'image, il n'y a rien du tout. Donc, quand il voit, il ne sait pas ce qu'il voit. Mais c'est ça la beauté des guérisons de Jésus, c'est qu'il met le programme dans la tête aussi. Il ouvre les yeux, mais il met le programme. Et le gars, il a pu se retrouver. Ça, vous voulez dire ça, le médecin, il ne peut pas faire ça. Hein. Avec leur laser et tout ça, ils ne peuvent pas remettre le programme. Même quand il vous répare la jambe, il dit, maintenant, il faut apprendre à marcher. Jésus, lui, le gars, il n'avait pas marché depuis 26 ans. Debout, puis il ramasse le lit, puis il part. Le musclé, tout était là. Mais ça, c'est les miracles de Dieu. On a un Seigneur extraordinaire. Et là, cet homme-là, il est guéri. Il voit. Au lieu de faire une grande fête et réunir tout le village et dire, ouais, on est en train de dire, ouais, mais c'est lui ou c'est pas lui ? Ça peut pas être lui. Ah, bah si, c'est lui. Ah oui, mais si c'est pas lui, mais où est l'autre alors ? Et puis il dit, non, et puis qu'est-ce qu'il a guéri ? Et le pauvre, il se retrouve tout seul. Il se retrouve tout seul. Imaginez quelqu'un qui cherche le Seigneur et puis qui trouve que de l'opposition autour de lui. Pourtant, c'était des gens religieux, tout ça. Il voit qu'on se sert de lui pour discuter de toutes choses, sauf lui. Et alors, cet homme... Qu'est-ce qu'il sait ? Il est en train de découvrir Jésus en discutant avec les uns et les autres, en essayant de répondre. Jésus venait de frôler la lapidation au chapitre précédent. Donc lui, il se faisait un peu discret. En fait, cet homme n'a jamais vu Jésus. Hein. Jésus lui a parlé. Il a peut-être certainement enregistré la voix, hein, parce que les aveugles, ils sont bons pour ça. Et parce que Jésus l'avait dit, écoute, voilà, va te laver à la piscine de Siloé. Puis, et quand il revenait, il n'y avait plus Jésus. Et plus de disciples, plus personne. Mais on lui a dit, c'est Jésus. Et c'est tout ce qu'il savait. N'allez pas croire qu'il est sauvé, là, hein, s'il ne connaît pas Jésus. Il a entendu parler de Jésus. C'est extraordinaire, parce que c'est pas contrairement à l'aveugle de Jéricho. Lui, il disait... « Fils de David, aie pitié de moi !» quand il a su que c'était Jésus qui passait. Mais cet homme-là, il ne savait pas que Jésus passait. Et ce serait passé comme ça. Il n'aurait rien vu. Et ce n'est pas les disciples qui l'auraient dit, « Écoute, tu sais, il y a quelqu'un là qui peut te rendre la vue. Hein. Appelle-le. » Non. C'est qui a péché ? Lui ou ses parents ? Il est entré là, on fait de la théologie et puis des discussions à perdre du temps. Comme j'en ai fait pas mal quand j'étais à l'Institut biblique. Et alors, il vient et on commence à dire, vous savez, des fois on est là et on dit, est-ce qu'on aime être connu dans le village comme... Ça, c'est quelqu'un qui va dans la petite salle là-bas en bas. Le dimanche. Et alors ? Je n'ai pas honte de mon Seigneur. Il n'a pas eu honte de moi. Vous savez, c'est être cloué sur une croix, comme ça, puis insulté de tout le monde, et la moquerie, et puis on se partage ses vêtements. Mettez-vous à sa place, rien que la partie physique, matérielle de la chose. Et lui, il n'a pas eu honte de moi. Il me permet de porter son nom. Il me dit, écoute, tu mets le nom de Jésus. Chaque fois que tu fais quelque chose à la gloire de Dieu, mets au nom de Jésus. Je te prête mon nom. Tu peux l'utiliser pour quand tu veux parler à mon père. Tu peux l'utiliser quand tu as un ennui. Tu peux l'utiliser quand tu parles à quelqu'un, quand tu pries. À tout moment, tu peux utiliser mon nom. Je te prête mon nom. Et puis après, nous, on s'en sert uniquement entre quatre murs, dans des salles réservées pour cela. Certains disent, oui, mais bon, si je deviens chrétien, je me joins à ces gens-là, après, mes enfants ne pourront pas se marier dans l'église du village. Et puis quand je vais mourir, mon enterrement, ils ne vont pas sonner les cloches pour moi, il n'y a pas de cloche chez ces gens-là. Et puis, voilà. Et alors, et puis au travail, est-ce que ceux qui travaillent vous savent que vous êtes enfants de Dieu? Est-ce qu'ils savent? Est-ce que votre employeur, vos collègues de classe, est-ce que tout le monde autour de vous sait que vous êtes enfants de Dieu? Et est-ce que votre vie est telle pour confirmer? Parce que ce n'est pas la peine de lui parler de Jésus. Hein, c'est déjà arrivé que quelqu'un prenne l'initiative de chercher le Seigneur, puis finalement il se retrouve, et puis il arrive dans une communauté, et puis il trouve un collègue de travail. Il dit, ah bon, toi aussi tu viens ici? Et ça fait combien de temps? Oh, ça fait 15 ans. Et tu ne m'as jamais parlé? Vous savez, on se sent petit, hein? Comment atteindre les siens, ceux de notre entourage, pour les attirer à Christ? Il y a un moment qui est important, c'est quand les personnes pour lesquelles nous prions, et j'espère que ces personnes à qui on a parlé une fois, c'est d'être là quand ils passent par un moment difficile, peu importe ce qui se passe dans votre vie. Le timing est important. Combien de fois? Parce que, vous savez, il y a des gens, tant que tout va bien, on n'a pas besoin de Dieu. Mais quand ça commence à aller mal, et on ne sait plus vers qui se tourner, et puis les amis disparaissent, vous savez comment c'est dans le monde. Eh bien, c'est le moment pour nous d'apparaître. Parce que c'est ça qui prouve la différence. Moi, je ne viens pas te parler parce que je suis intéressé. Par ce que tu as, ou ton amitié, ou par ce que tu possèdes. Moi, je viens pour toi. Ça, c'est un message évangélique. Et je veux prier pour toi. Vous savez, c'est rare où les gens du monde, ils disent, non, prie pas pour moi. Je ne veux pas que tu pries. Surtout quand ils passent par un moment difficile. Ils disent, ça ne peut pas faire de mal, hein, allez-y. Au pire. Et parfois, il ne faut pas leur demander devant les amis, mais quand tout seul, ils disent, écoute, tu peux prier pour moi, je passe à un moment difficile. Ma femme, dernièrement, là, avec la pharmacienne, a dit, j'ai mon père. Il dit, écoutez, je vais prier pour vous. Donnez-moi votre numéro de téléphone. Parce qu'on ne donne pas les numéros de téléphone comme ça à n'importe qui. Donnez-moi votre numéro. Oui, je vous donne. Et puis ma femme qui lui envoie des passages, des psaumes, pour l'encourager, le soutenir. Et oui, mais c'est du travail comme ça. Oh, peut-être la récolte, c'est pour dans quelques années. Qui sait? Mais ça se travaille. Le terrain rocailleux. J'ai visité en Palestine, en Israël, et c'est rocailleux comme terrain. Et alors, ils ramassent les cailloux, puis ils les mettent, et puis ils en font des murs, des clôtures. Et on ramasse les cailloux, et puis finalement, le terrain, il devient fertile. Hein, c'était ça le problème, hein, dans la parabole du Seigneur, hein, les cailloux. Ben, on enlève les cailloux. Vous avez votre voisin, il a des cailloux dans la tête, il a des idées reçues, il a des problèmes, il a des idées prédéterminées, il a des, toutes sortes de choses. Mais commencez à enlever les cailloux. Commencez à discuter avec lui, on enlève les cailloux jusqu'à ce que le terrain devienne fertile. Pour que la semence puisse être semée. Tout ne se fait pas en une nuit. C'est pour ça qu'il faut commencer maintenant pour que, hein, pour que ça commence à venir. On est là à Fréjus, on arrive, c'est un tout petit groupe, tout petit noyau, puis on commence à faire des contacts. Ben, c'est pas parce que tout d'un coup on a une carte de visite et puis on la distribue et tout d'un coup il y a des gens qui commencent à venir à l'église. Hein. Oh là là! On commence à parler celui-ci, on parle à celui-là, celui-là quand on peut lui dire bonjour chaque fois. Ah celui-là il commence à me faire la bise. Ah ben c'est déjà, on a fait des progrès. On est arrivé à la bise. Mais ça c'est l'œuvre de Dieu! Ma femme et moi, on n'est pas là pour faire la bise à plus de monde que les autres. Hein. Mais ça indique un progrès dans la relation. Ça veut dire qu'on peut en dire un peu plus la prochaine fois. Et on continue à travailler. Et le Seigneur saura un jour rassembler tout ça. Et tout d'un coup, on dira, « Ah, ça vient d'où ?» Et bien, le Seigneur dit, c'est pour que Dieu soit glorifié en lui. Hein. Il me reste encore 6 minutes. L'aveugle. Regardons l'aveugle. Tout cela, là, on a discuté de tout sauf lui. On a fait comme les autres. Maintenant, on veut venir sur lui quand même. Hein. Et l'aveugle, son statut, quand le chapitre commence, c'est une personne qui n'est même pas consciente que Jésus existe. Voilà où on démarre, le point de départ. Il n'y a rien. Il ne sait même pas l'appeler. Ensuite, on lui demande, c'est qui ? Ben, c'est celui qui a mis de la boue sur mes yeux et puis m'a dit d'aller me laver dans la piscine de Siloé. C'est une identité, c'est une manière de le distinguer des autres, mais c'est tout ce qu'il savait. C'est celui qui m'a dit d'aller me laver, puis je me suis lavé, j'ai la vue. Oh, il n'avait pas la vie encore, il a la vue. Ensuite, on lui apprend, c'est les autres qui lui apprennent, il dit, mais tu sais, c'est Jésus qui t'a fait ça. C'est un certain qui s'appelle Jésus, Joshua. C'est lui qui t'a rendu la vue. Ah, ben il a enregistré ça. Déjà, Jésus. C'est qui ce Jésus ? Et ça commence à travailler dans sa tête. Et après, il discute avec les pharisiens. On lui dit, moi, c'est un homme pécheur. Il dit, oh, j'ai dit, je ne sais pas comment c'est un homme pécheur, parce que moi, pour moi, il doit être un prophète, hein, pour avoir fait une chose pareille. Et il est en train de découvrir tout seul. J'ai eu des discussions avec des musulmans qui ils ont commencé à chercher Jésus en lisant le Coran. On dit, oh hein, ça vous choque, hein. Mais c'est du vrai. Parce qu'ils ont commencé à se renseigner sur ce que le Coran disait sur Jésus. Déjà, ils trouvaient, ouais, mais ce Jésus était quand même pas mal. Il faisait des guérisons, il était la parole de Dieu, il est l'Esprit de Dieu, il est... Ah, faudrait que je... Et puis après, s'ils étaient restés avec ça, ils n'auraient pas eu de salut. Mais après ça, ils ont été chercher plus loin. Ils ont dit, ben, on va aller trouver les gens qui se réclament de Jésus. Et puis, ils trouvaient les chrétiens... Et puis encore, il fallait trouver des chrétiens qui n'aient pas honte de le dire, ou de témoigner à un musulman, parce que dans certains pays, ça peut être dangereux de témoigner à un musulman. Donc il faut encore en trouver un qui soit prêt à le faire. Puis quelqu'un qui... Oui, mais cet homme, il commence, et puis en sa discussion avec les pharisiens, il dit « Non, mais c'est pas possible, vous dites que c'est un homme pécheur, mais moi, Dieu, il répond pas aux pécheurs, c'est pas possible, je conçois pas ça. » Et il est en train de, petit à petit, il dit « Dieu n'exauce pas les pécheurs. » Et puis il lui dit, oh ben toi tu veux être un de ces disciples. Alors il leur dit, pourquoi vous posez tant de questions? Vous voulez être un de ces disciples? Oh non, pas nous, mais toi tu es un disciple. Alors l'idée, ah ça existe les disciples de Jésus. Et alors après ça continue, Dieu ne répond pas à quelqu'un qui ne fait pas la volonté du Père, du Dieu. Donc certainement qu'il est en train de faire la volonté. Donc il est en train de former sa théologie là. Qui est Jésus ? Elle est en train de se faire. Vous savez, mais c'est ça. C'est avec ça qu'on travaille. Lui, ça se fait dans un chapitre. Mais quand on est dans le monde avec les gens, ben, ils sont en train de... Le travail, il est athée. Il a rien... Ses parents étaient athées, ses grands-parents étaient athées. Il dit, je n'ai rien à savoir. Et on travaille petit à petit, comme ça. Jusqu'à le moment où il peut rencontrer Jésus. Et alors, arrive le moment où Jésus se présente discrètement. Il dit, est-ce que tu crois au Fils de Dieu ? Il dit, je ne sais pas qui il est. Mais il dit, ta voix me dit quelque chose. J'ai entendu cette voix-là. Hein, parce que c'est un aveugle. Mais oui, cette voix, j'ai déjà entendue. Et Jésus lui dit, c'est moi qui te parle. Et vous savez ce qu'il a fait ? Le travail était tellement bien fait qu'il s'est prosterné et adoré le Seigneur. Il est passé de celui qui ne connaît pas du tout le Seigneur à celui qui a adoré le Seigneur. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Vous dites, ah oui, si je pouvais vivre ça. Et oui, mais je vous encourage parce que oui, j'ai déjà vu des gens, pas possible, découvrir le Seigneur et la transformation, et surtout après qu'ils disent, oh, merci de m'avoir parlé du Seigneur. Oh, ça m'a attiré des ennuis, ça m'a attiré la persécution, tout ça. Mais merci, je suis content. J'ai des chrétiens en Algérie, ils se sont fait rejeter de la maison, ils ont perdu leur travail, ils ont perdu... Ils disent, oh, mais clairement, je suis content d'avoir rencontré Jésus. Les gens du monde, ils nous disent, mais vous gâchez leur vie, vous leur créez des problèmes. J'étais une fois avec un gars qui voulait, qui, à cause de sa foi, il demandait asile en France, et je vais voir la police, il dit, ouais, mais bon, c'est vous qui venez me voir, mais c'est vous qui avez créé des problèmes, vous l'avez parlé de votre religion. Bon, il pense comme il pense. Moi, cet homme, il est content d'avoir rencontré Jésus. Il dit, vous ne voulez pas être la réponse à sa situation ? Dieu trouvera quelqu'un d'autre. Hein, mais on continue. Et on accompagne les gens, et on les accompagne. Et vous savez, l'évangile, ce n'est pas uniquement pour le cœur, mais ça transforme la vie. Et la personne vit autrement. Et moi, je suis là pour vous dire que ces gens étrangers qui sont rentrés sans papier en France... Et on a commencé à travailler avec eux quand ils étaient sans papier. Maintenant, ils sont propriétaires d'un restaurant. Ils ont une famille. Ils adorent le Seigneur. Et oui, mais on a travaillé avec eux quand ils étaient là. Et maintenant, hein, je vais dans la région parisienne, la communauté arabe, elle m'invite à venir prêcher. Mais il y avait une époque où ma femme et moi étions les seuls qui avons les cartes de séjour. Dans un groupe de 30 personnes. Mais maintenant, c'est eux qui nous invitent d'y venir. Et ils louent le Seigneur. Vous savez, c'est extraordinaire. Et Dieu veut le faire. Et s'il peut m'utiliser moi, il peut utiliser n'importe lequel d'entre vous. Mais ce n'est pas une question de « je lui donne 5 minutes par semaine ». C'est une question de « je lui donne une vie ». Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir missionnaire à plein temps. On peut le faire à l'usine et donner sa vie au Seigneur. Vous avez accès à des gens auxquels je n'aurais jamais accès. Dans l'usine, dans le bureau, au lycée. C'est stratégique là où vous êtes. Tout ce qui intéresse le Seigneur, c'est que vous soyez à sa disposition. Et puis, on en parlera encore tout à l'heure, mais et que l'Église soit telle de pouvoir recevoir des merveilles, des joyaux non finis. Et le Seigneur veut continuer à tailler cette pierre dans ma communauté pour en faire un joyau céleste. Prions. Père Céleste, nous sommes là avec toi et nous sommes là à cause de toi. Et Seigneur, tu étais merveilleux. Et nous admirons encore ce que tu as pu faire et les vies que tu as pu transformer. Et Seigneur, ta parole n'a pas perdu de sa puissance. Et tu es encore en train de racheter les âmes perdues. C'est juste une question de, ça sera fait par les autres ou ça sera fait par moi? Est-ce que tu vas utiliser ma communauté ou est-ce que tu vas utiliser d'autres communautés? Mais le travail se fera et le corps de Christ sera complet. Père, que ton esprit continue à travailler dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen.